Édition Périgord. Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Lafeuille-Lemont, le rédacteur en chef du magazine L'Édition Périgord, et je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de L'Édition Périgord, le podcast économique en partenariat avec le Dordogne Business Club. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Elixir. Elixir est une jeune marque qui célèbre le Made in Périgord tout feu tout flamme, puisqu'elle propose des bougies d'ambiance parfumées, aussi raffinées qu'originales et créatives. Je reçois donc Raquel Gay-Benito, parfumeuse et artisane syriée. C'est elle qui a fondé Elixir et qui développe de nouvelles fragrances pour parfumer ses bougies entièrement réalisées à la main et au nez bien sûr. Raquel a choisi de sortir du lot en créant deux gammes, une qui célèbre les saisons grâce à des parfums très poétiques et une autre, des plus inattendues, qui rappelle certains spiritueux. Raquel va nous parler de son métier, qui est une véritable passion pour elle, de son parcours et de ses savoir-faire. Bonjour Raquel.
Bonjour Frédéric.
Donc on est chez toi ici, où tu as aussi ton atelier qui est juste à côté. Où est-ce qu'on est ? Raconte-nous.
On est à Gorce, qui est un lieu-dit de la commune de Sainte-Croix de Beaumont, en Dordogne, entre Beaumont du Périgord et Montpazier.
D'accord. Et est-ce que tu es là depuis longtemps ?
Non, je suis là depuis un an et demi.
D'accord. Donc un an et demi où tu t'es installé pour déjà vivre ici, mais aussi pour y travailler, pour créer quelque chose. Tu as créé Elixir. Parle-nous un petit peu de cette marque. Tu fais quoi avec Elixir ?
Alors, Elixir, je fais des bougies artisanales parfumées, mais avant tout, je voulais créer une collection aussi de bougies un peu destinées à l'homme, parce que je trouve que souvent, quand on veut faire un cadeau à un homme, c'est pas évident. Et moi-même, j'adorais les bougies, donc j'avais envie de pouvoir offrir une bougie qui soit peut-être un peu plus masculine ou pas, okay. Mais qui puisse... quand même avoir ce côté un peu... enfin, qui puisse être mixte, quoi.
Ok. Donc, la démarche était de faire quelque chose d'un peu nouveau, finalement, puisque tu parles de cette approche de la masculinité avec quelque chose qui, parfois, est un produit plutôt acheté par des femmes, ou en tout cas, c'est ce qu'on pense.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée m'est venue alors que j'étais chez un caviste et que devant moi, il y avait une dame qui venait d'acheter une bouteille de whisky pour l'anniversaire de son mari. Et quand elle a demandé un cadeau complémentaire à la vendeuse n'avait pas vraiment d'idée, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle lui a proposé des tire-bouchons, des verres de dégustation en complément. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça m'est monté à ce moment-là au cerveau et c'est parti de là.
Sting, ouais. L'idée qui arrive, quoi.
C'est ça, la lumière.
D'accord, alors du coup, tu savais faire des bougies, tu savais faire composer des parfums, ou c'est cette idée-là qui t'a donné envie de développer un peu les choses, ou est-ce que tu avais déjà une base ?
Non, alors en fait, à ce moment-là, j'avais déjà fait une école de cirier, j'avais fait une école pour apprendre justement à travailler la cire, parce qu'en fait, du coup, je ne sais pas faire que des bougies avec la cire, je sais également faire des photophores et d'autres choses. J'aimais bien le travail de cette matière, et j'avais déjà quasiment fini mon école de parfumeur d'ambiance.
D'accord.
Voilà. Mais dans l'idée, en fait, quand j'ai appris à faire des bougies parce que j'aimais beaucoup ça, et puis il fallait que je travaille de mes mains. Avant, j'étais chef d'entreprise, j'avais besoin de travailler de mes mains. Et du coup, j'ai fait l'école de parfumeur parce que je ne voulais pas être contrainte d'avoir que les parfums qui étaient vendus dans le commerce. Donc j'avais vraiment... Et puis j'ai toujours aimé le parfum. Quand j'étais jeune, j'étais animatrice pour Beauté Success du temps où je faisais mes études de compta. Et à l'époque, j'étais rémunérée avec un billet de 100 francs et un 100 millilitres de parfum.
D'accord.
Ce qui fait que j'avais une collection de parfums énorme.
Ouais.
Voilà.
Ok, donc cette envie d'apprendre à faire des parfums, cette envie d'apprendre... Donc... Tu as intégré une école de cirier, c'est ça, hein? C'est comme
c'est
ça qu'on dit?
On parle du métier de cirier, oui.
D'accord. Et en parallèle, de parfumeur, comment ça s'est passé ce parcours-là?
Alors, j'ai commencé par l'école de cirier, parce que c'était, enfin, dans cet ordre, par rapport aux dates de formation, c'est ce qui collait le mieux. Donc, j'ai fait l'école de cirier, c'était en juin, voilà, en juin. En plus, dans le sud de la France, donc il y a pire quand même. Mmh. Et ensuite, le mois de septembre qui a suivi, j'ai intégré l'école de parfumeur à Paris, là où j'ai étudié la formulation des parfums d'ambiance, comment créer du parfum d'ambiance.
D'accord, donc vient l'idée de ce complément de cadeau que tu, voilà, qui fait ch'ting. Et du coup, comment s'est passée la suite? Tu as créé une première gamme, comment ça s'est passé?
Alors la suite, ça s'est passé tout à fait par hasard, parce qu'en fait, quand on est venu s'installer ici, à Sainte-Croix, sur la propriété, nous avons des gîtes, et sont venues nous rendre visite les dames qui s'occupent de l'office du tourisme, pour justement trouver un partenariat, et puis s'intégrer, de savoir comment on pouvait s'intégrer localement. Et j'étais en préparation d'une commande de bougies spécifiques pour un ponceur de béton, des bougies en forme de bâtiment. Et donc ça sentait bon dans la maison. Et c'est vrai que l'atelier n'était pas encore créé, donc on avait transformé la salle à manger en atelier provisoire. Ouais. pour honorer cette commande. Et là-dessus, ces deux personnes, qui sont Oriane et Justine, nous ont demandé de faire le marché de Montpazier. Donc pour faire le marché de Noël de Montpazier, pardon, on a fabriqué, on a fait une centaine de bougies, parce que du coup, forcément, pas d'idée des quantités, de rien.
À la route, comme ça, je me lance.
Et à l'époque, je n'avais pas encore achevé mon parcours de formation. Donc, on est parti sur une collection de parfums qu'on a acheté à Grasse. Et on a fait le marché de Noël de Montpazier. Et puis, en fait, dans la semaine qui a suivi, on a été contacté par plein de gens qui avaient des amis qui avaient acheté des bougies et qui avaient raté le marché de Noël. Donc, on a eu du monde qui a défilé à la maison pendant les 10 jours qui suivaient et qui venaient chercher leurs bougies le dimanche après-midi, dans notre coin de salle à manger où on avait étalé les quelques bougies qui nous restaient. Voilà, donc c'est parti de là.
Comme quoi, le premier réseau social, c'est quand même le bouche à oreille, et c'est tu sais quoi, j'ai acheté une bougie qui. Voilà.
Oui, surtout dans nos campagnes.
Dans nos campagnes, dans nos régions. Et en fait, c'est la meilleure chose, puisque c'est un réseau social qui est non rémunéré. Donc c'est vraiment du vrai conseil, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'en plus, donc, du coup, ensuite, on a été contacté par le réseau d'artisans d'art.
Donc du département
de Bergerac.
De Bergerac.
Et on a commencé après, dès le mois de février, on mettait nos bougies au petit Montmartre de Bergerac. Et là, s'est enchaîné le festival du jazz, où on a eu énormément de mal à produire, parce qu'en fait, à la base, on avait prévu 300 pots, et fin mai, on n'avait plus rien, quoi.
Alors que c'était censé durer combien de temps?
Dans mon esprit, ça allait faire au moins l'été.
Ah oui? Voilà. Donc là, l'été n'était pas commencé.
Non, okay. L'été n'était pas commencé, donc on a dû se réapprovisionner. Et au passage, on a créé une collection un peu plus estivale, sachant qu'à cette période-là, on était toujours en mode recherche et développement sur nos parfums.
Oui, alors c'est une grosse étape de ton travail. On a visité ton atelier. Et effectivement, il y a quand même cette partie recherche et développement qui te demande énormément de travail, d'implication, mais de créativité aussi, puisque tu utilises l'un de tes sens pour créer. Donc il y a vraiment ce côté artistique. Parle-nous par exemple de ton premier parfum de bougie. C'était lequel?
C'était ce qu'on a appelé le Grand M.
Le Grand M, ouais. Qui rappelle un alcool très célèbre.
Voilà, voilà, qui sert à faire les crêpes Suzette. Voilà. Donc le Grand M, il y avait celui-ci, et puis sinon, non, il y avait l'absinthe aussi.
L'absinthe, oui.
L'absinthe, oui.
Donc là, on est sur des alors j'allais dire odeurs, peut-être que le mot est un peu trop large.
Senteurs.
Des senteurs. Ouais. Sur des senteurs de quoi? Sur le Grand M, par exemple?
Alors, le Grand M, c'est un mélange de fleurs d'oranger et marié avec un fond de cognac.
D'accord.
Voilà.
Et sur l'absinthe, on va être sur des choses anisées, c'est ça ?
Alors l'absinthe, on est très aromatique sur de l'anis avec de l'hysope et du calamus.
D'accord. Donc au départ, ces parfums, tu les concevais en te déplaçant, c'est ça ? Tu es allé à Paris, je crois ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai ma mallette de matières premières qu'on appelle un olfactorium. Et à partir de cette mallette et de mes matières premières, finalement, j'ai formulé mes parfums. Donc, je suis pas allée à Paris que pour un parfum. J'ai formulé les 5 parfums de ma collection, à savoir que je voulais couvrir les cinq familles. Je voulais un aromatique, un boisé, un fleuri, un gourmand. Enfin, je voulais vraiment couvrir
pour tous les goûts et toutes les couleurs. Quoi.
Voilà. Ouais. J'étais partie sur une collection de 5. Alors 5, c'est plus un petit clin d'œil à Coco Chanel.
Oui, oui.
Puisque c'était le chiffre 5, c'était le chiffre de Coco Chanel. Et donc du coup, j'ai formulé ces 5 parfums. Et ensuite, j'ai fait pas mal d'allers-retours sur Paris pour aller les peser. Pour aller les peser, sauf que entre deux pesées, il faut minimum 15 jours. Puisqu'il faut que la matière prenne sa place dans le parfum.
D'accord, donc en fait c'est ça, tu fais des assemblages et le temps après va faire en sorte que certaines molécules vont se parler et créer quelque chose. Mais ça, tu ne peux pas le sentir tout de suite.
Pas tout de suite, non.
D'accord.
C'est ce que je sens de prime abord une fois que j'ai pesé n'est pas forcément la même chose que ce que je vais sentir 8 à 10 jours après.
Oui, donc en fait, il y a un gros laps de temps entre le moment où tu...
C'est comme s'il y avait une macération, maturation, quoi.
Ah oui, ouais.
Voilà.
Donc, on avait le grand M, on a l'absinthe.
Le whisky.
Ouais.
Alors, whisky, je me suis inspirée des whisky de céréales, enfin des céréales, avec des notes, en notes de tête, des pamplemousses.
Mm-hmm.
Et en suivant, tout un tas de céréales, d'herbes coupées, de choses comme ça. Qui rappelle quand même un peu le foin. Le whisky, c'est très délicat parce qu'en fait, le whisky par lui-même... Donc j'ai fait un W7 en spiritueux.
Un W7 en spiritueux.
Oui, c'est le diplôme de dégustation
D'accord.
de spiritueux.
Okay.
En fait, les spiritueux, en général, ont une phase de macération, distillation, et ensuite, il y a le vieillissement. De la boisson. Ce qui fait qu'en fait, ça fait toute une concentration d'odeur, enfin tout ce qui est c'est concentré. Et c'est comme un accordéon, en fait. Quand on sent un whisky dans une bouteille ou dans un verre, bon, obligatoirement, on a les vapeurs d'alcool qui arrivent en premier.
Mmh.
Mais en fait, quand on le coupe, on dilate comme si on ouvrait un accordéon.
D'accord.
Et on fait remonter toutes les odeurs qui sont le fruit de la macération, du vieillissement et du travail du distillateur.
Donc c'est quand la matière te raconte son histoire, enfin,
c'est ça.
Te raconte quelque chose de plus... Parce qu'effectivement, en fait, t'es...
Mes parfums ne correspondent pas à ce qu'on peut sentir quand on met le nez dans un verre de whisky.
C'est ça, la bougie
whisky. Parce que
déjà,
on n'a pas l'éthanol, la bougie n'aime pas l'alcool.
Mmh. Et oui, c'est ça, puisque la bougie a besoin, tu nous expliquais un petit peu plus tôt avant l'enregistrement, a besoin d'un corps gras, enfin que le parfum soit mélangé à un corps gras et non pas à de l'alcool. Sans ça, ça ne se mélange pas tout simplement avec la cire.
Voilà, et puis en plus, pour la combustion, je ne pense pas que ce soit très bon de brûler de l'alcool.
Oui, c'est peut-être pas une très bonne idée, non. Non. Ok, donc en fait, il y a eu une évolution dans tout ça, puisque au départ, tu te déplaçais pour composer tout ça, mais il y avait une grosse perte de temps, il y avait ces jours-là qui sont nécessaires à la mise en place de toutes ces molécules et tout ça. Donc finalement, tu as changé un petit peu de ton fusil d'épaule et tu fais différemment aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai installé un orgue dans mon atelier.
Alors,
un orgue de parfumeur.
Voilà.
L'orgue de parfumeur...
C'est quoi un orgue de parfumeur ?
C'est tout un assortiment de... C'est comme si on avait des notes de musique pour composer un morceau de musique. Donc, moi, j'ai des petites matières premières, qui me permettent à peser ce que je formule.
D'accord. Donc, en fait, tu joues un petit peu à la chimiste.
C'est de la chimie.
Il y a de la chimie, mais ton instrument premier, c'est ton odorat.
C'est mon odorat. Après, donc, bon, il y a des techniques de formulation. Hein. C'est comme une recette de cuisine. Le parfum, c'est de la cuisine avec un peu de chimie. Enfin, avec de la chimie. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir peser nos parfums ici, ne plus avoir à faire les trajets. Et en plus, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'en pesant nos parfums à domicile, on a vraiment adapté notre orgue à notre activité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pèse du parfum à Paris, c'est du parfum qui est dilué dans de l'alcool, dont le solvant est de l'alcool, et qui ne peut pas être testé directement en bougie.
D'accord.
Donc on va aussi s'économiser un aller-retour chez le parfumeur, puisque jusqu'à présent, une fois qu'on avait formulé et validé le parfum, on envoyait la formule chez le parfumeur, qui nous renvoyait un pilote de 20 grammes, qu'on testait dans la bougie, et qu'on revalidait par la suite. Là, on va s'économiser cet épisode-là, puisqu'on va directement faire nos parfums dans des corps gras.
Alors, une fois que tu as mis en place ces parfums, ces formules, en fait, ouais. Qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Tu les fais produire, j'imagine, en grande quantité ?
C'est ça. Donc, j'envoie ça chez le parfumeur. Et donc, le parfumeur, lui, a un logiciel qui lui permet de vérifier en termes de réglementation si on est conforme à ce qu'on appelle IFRA ou pas.
Alors, IFRA, c'est...
C'est la réglementation parfumeur internationale.
Okay.
Et donc, du coup, ensuite, il nous renvoie, dès que tout est OK, il nous renvoie nos bidons de 5 kilos de parfum.
D'accord, donc tu as 5 kilos qui débarquent ici.
Voilà.
Et il n'y a plus qu'à.
Et presque.
Voilà, alors du coup, la phase suivante arrive.
Il n'y a pas plus qu'à, parce qu'en fait, quand je teste sur des petites quantités... Je ne teste que le rendu olfactif à chaud du parfum. Après, quand je dois produire la bougie, je dois aussi tenir compte du contenant, de la taille de la mèche, du dosage du parfum dans la bougie, puisqu'en fait, finalement, chacune de mes bougies a une recette différente.
Et oui, c'est ça, une recette. Hein, voilà. Tu utilises le mot recette.
Ben, c'est une recette, parce qu'en fait, on a une première recette pour le parfum, et après, on a une seconde recette pour incorporer le parfum dans la cire.
Alors, pour avoir visité un petit peu ton atelier, et pour avoir assisté à un coulage, on dit ça, hein, coulage, non,
ouais,
comment on dit,
ouais,
bon,
voilà. On coule une bougie.
On coule une bougie, en tout cas, c'est quelque chose d'assez précis. Malgré ce qu'on pourrait croire en regardant certains tutoriels sur TikTok ou sur Instagram, on a l'impression que tout ça c'est ultra facile. On prend de la cire, on la chauffe, on la pose dans un truc et puis hop là, c'est parti. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y a quand même un côté. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de chimie. C'est la chimie, elle a lieu aussi là. Il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art.
Ben oui, parce qu'après, il faut... Enfin, c'est pas tout. Oui, couler la bougie, mais en termes de parfum, il faut que le parfum qui sent bon quand on sent une bougie à froid, il faut que ce soit restitué quand ça brûle. Ouais.
Et c'est pas toujours le cas. Donc, il y a beaucoup de tests à faire là-dessus.
Il y a les tests de brûlage pour voir le rendu olfactif. Après, on teste également, on fait des tests par rapport à la mèche,
ouais.
La taille de mèche dans le contenant. Après, on teste la durée de combustion et on teste également la force de combustion.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la force de combustion ? Ça va être la température que ça va dégager ?
La force de combustion, en fait, on teste la résistance du pot. Par exemple, une bougie, en théorie, ça doit brûler maximum 4 heures.
D'accord.
Sachant qu'on est sur de la cire végétale, donc en fonction du diamètre, l'idéal, c'est que la bougie, elle brûle au moins 1h30, 2 heures. En fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'elle ait fait sa piscine. La piscine, ça veut dire quoi ? C'est que toute la superficie est fondue.
D'accord.
Parce que tant que toute la superficie de la bougie n'est pas fondue, elle ne fait pas son travail de diffusion.
D'accord, en fait.
Elle est beaucoup plus performante une fois que toute la surface est fondue.
D'accord, en fait, c'est les émanations de cette piscine, c'est ça ?
Qui font qu'en fait, une fois qu'elle a fini de faire son travail de chauffe en surface, ça fait remonter les odeurs. Et donc, la force de brûlage, c'est s'assurer que si un client, un consommateur... oublie d'éteindre sa bougie, par exemple. Enfin, je sais pas, vous partez... quelqu'un part se coucher le soir, il oublie d'éteindre sa bougie.
Ouais.
Eh bien que si la bougie brûle pendant 8 heures, 12 heures ou plus, que le verre ne se fende pas,
oui,
qui résiste au brûlage. Ça, c'est la force de brûlage.
Ok. Donc, il y a cet aspect qui est sécuritaire, en fait, finalement.
Oui.
Il faut quand même avoir... C'est pas parce qu'on fait des bougies artisanales et qu'on les vend d'une manière artisanale, enfin, avec ces réseaux-là, qu'il ne faut pas penser, effectivement, à tout cet aspect-là, puisqu'il y a du feu, quand même, dans tout ça.
Il y a du feu. Et puis, derrière, il y a tout un étiquetage qui est quand même assez lourd.
Oui. Oui, c'est ça. Il faut raconter un petit peu aux gens qui peuvent se brûler, qui peuvent... que c'est...
C'est ça. Il faut qu'ils sachent ce qu'il y a dans les produits.
Oui.
Il faut qu'ils connaissent les dangers, puisqu'en fait, sur certaines... Nous, on travaille avec des parfums qui sont sans CMR, sans cancérigène, sans mutagène, sans reprotoxique. Ça ne veut pas dire pour autant que quand la bougie brûle, elle ne l'est pas.
Oui.
Puisqu'en fait, il y a le facteur combustion qui vient altérer ça. Néanmoins, en prenant des produits qui ne le sont pas à la base, qui en plus sont dilués dans la bougie, on neutralise quasiment, je dis quasiment parce qu'on n'a aucune certitude, mais on neutralise quasiment le risque. Par contre, il n'en demeure pas moins que ces produits-là, si on verse de la cire avec du parfum, ça peut être toxique pour les animaux aquatiques, ça peut être... ça peut aussi... certaines personnes peuvent avoir des irritations de la peau, des yeux, si on touche la bougie, voilà. Après, on a certaines bougies qui sont soumises à déclaration sur le centre antipoison.
D'accord.
Donc, qui nous contraignent à déclarer... toute notre formule, c'est-à-dire molécule par molécule, plus le poids de la bougie, le contenant, enfin, ça c'est, je pense que tous les fabricants de bougies...
C'est un cadre bien précis.
Le font.
Ouais, ouais.
Et donc, de là, s'ensuit un numéro unique qui fait que si, par exemple, il arrive quelque chose à un enfant qui viendrait à tremper son doigt dans la cire fondue et le mettre à la bouche, en appelant le centre antipoison.
On sait quoi
en donnant
faire,
ce code, le centre antipoison sait immédiatement quoi faire, puisqu'il y a tout est indiqué.
C'est ça, on conseille aux enfants de ne pas mettre leurs doigts dans les bougies et de ne pas les manger après, merci.
Voilà.
quelle est la différence on va d'abord commencer plutôt par te demander, c'est quoi la cire que tu utilises? Je crois que c'est une cire qui n'est pas animale.
Non, c'est 100% végétal. Je travaille avec de la cire 100% végétale. Alors après, en fonction de mes besoins, en fonction des demandes clients, on travaille avec du soja ou du colza.
Du soja ou du colza,
ouais.
D'accord.
Et de la stéarine aussi.
Alors la stéarine, c'est quoi?
C'est une cire végétale.
D'accord, ok. Et ça, c'est une différence aussi qu'il peut y avoir avec la bougie senteur patchouli que je vais acheter au supermarché, puisque c'est des cires qui sont plutôt différentes de ce que tu utilises toi. Il y a quand même...
Oui, alors dans les supermarchés, il se peut... Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a exactement, parce que c'est vrai que je n'en achète pas, pour être honnête. Mais souvent, les bougies qui sont très peu chères sont à base de paraffine.
Mmh.
La paraffine, c'est un dérivé du pétrole, donc ça a une combustion beaucoup plus rapide que la cire végétale. Même si je dirais que les cires paraffines maintenant, elles sont moins polluantes,
oui.
Sont moins toxiques qu'avant.
C'est pas parce que c'est du pétrole que c'est plus polluant.
Non, c'est plus propre. Enfin, c'est beaucoup plus propre qu'il y a quelques années en arrière.
Mmh.
Néanmoins, ça tient moins longtemps.
Mmh. Oui, effectivement, puisque le propre d'une bougie, quand on achète une bougie élixir, elle dure quand même quelques heures.
Ah, elle dure pas mal d'heures, oui.
Ouais, on est sur combien d'heures sur une bougie?
Alors, la bougie de... Alors, encore une fois, c'est en rapport avec la mèche.
Ouais.
Sur la collection Les Saisons, notre bougie, elle dure environ 45 heures pour 185 grammes.
45 heures, c'est pas mal.
Ouais. Sur la collection Les Spiritueux, elle dure une quarantaine d'heures pour 170 grammes. En parallèle, on est en train de préparer une commande d'anti-moustiques.
D'accord.
Avec une mèche tressée d'extérieur.
Mmh.
À poids équivalent, on a 170 grammes qui vont durer 20 heures.
Mmh.
Un petit peu plus au test, elle fait 22 heures, mais elle sera vendue pour 20 heures.
Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc en plus de ces parfums très raffinés, très fins et parfois audacieux, parce que tu aimes bien aussi proposer des choses qui sont qui viennent un petit peu surprendre, mais ça fait du bien d'être surpris. Tu proposes aussi des solutions personnalisées, mais aussi cette bougie anti-moustique. Qui peut intéresser pas mal de gens, puisque dans notre région, en plus dans le Périgord, on a maintenant des gentils moustiques tigres qui viennent nous rendre visite l'été.
C'est ça.
Donc tu es en train de travailler là-dessus.
Oui, alors en fait, on a commencé l'année dernière avec le bistrot Jean à Beaumont du Périgord.
Des voisins.
On a commencé par faire du remplissage de... toujours hein, dans l'idée de ne pas gaspiller. On a rempli les pots de confiture, donc on lui refait ces petits pots de confiture. On fait des bougies dedans pour mettre sur les tables. Donc ça, c'est de la bougie neutre. Mais après, dans les gros pots, plutôt que de jeter des gros pots et de reconsommer à nouveau un pot, puisqu'on paraffine, on a nos mèches en bobine, on a des grosses bobines de mèches, on paraffine nos mèches. Et donc, on retend des mèches dans ses propres récipients et on re-remplit. Et ça a commencé comme ça par une demande des restaurateurs. Et donc, on a travaillé sur la bougie citronnelle géranium avec une petite pointe d'eucalyptus pour faire les anti-moustiques. Et on le fait ça parce que on le fait pour les locaux, en fait. C'est pas... contrairement aux autres bougies, par exemple, les spiritueux partent à Portland aux États-Unis.
Ah oui.
L'anti-moustique, on le fait vraiment ici en local pour les gens de la région, quoi.
D'accord. Donc, c'est des bougies qui sont de toute façon faites à la main. On a pu le constater. Elles sont très, très, très faites à la main, puisque quand même, tu as un souci du détail. Encore une fois, il ne s'agit pas de couler et de partir se balader. Il y a quand même un vrai... processus qu'on expliquera d'ailleurs dans les pages du magazine, mais donc voilà, c'est quelque chose que tu tiens, que tu fais toi-même toute seule.
Ouais. Oui, et puis là, c'est cette bougie-là, en l'occurrence, celle qu'on est en train de préparer pour une coopérative locale. C'est vrai que le choix du contenant fait que techniquement, on est au millimètre près sur la fabrication de la mèche.
Ouais.
Parce que comme tu as pu le voir.
Oui.
On a le grammage juste pour avoir les 5 mm de mèche et on ne peut pas aller au-delà, sinon on ne ferme plus le couvercle.
Oui, c'est ça. C'est un petit bocal qui est assez beau d'ailleurs.
C'est très très beau.
Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, hein. Donc c'est un très bel objet et qui peut intéresser, qui intéresse d'ailleurs beaucoup de monde. On ne va pas donner le nom de tes clients, mais en tout cas, il y a des gens qui sont très intéressés et ils ont bien raison. Ok, donc en fait... aujourd'hui, ton activité est installée.
Oui.
Je pense que tu as eu ce succès auquel tu t'attendais pas forcément. En tout cas, la rapidité, tu t'attendais certainement à ce que ça se passe très bien. Mais comment ça s'est passé, là, par exemple, pour les fêtes de fin d'année qui sont pas si loin que ça, même si elles sont quand même un peu loin.
Oui, non, mais les fêtes de fin d'année, ça a été... ça a été un peu speed pour... Alors, on avait anticipé quand même nos achats cet été et on avait anticipé aussi nos achats à cause des augmentations tarifaires.
Mmh. Bonne idée.
C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, je dirais que ça a été un petit peu un coup de poker quand on a reçu, un mail des parfumeurs en disant que les tarifs augmentaient, je crois que c'était le 7 octobre. Le 6 octobre, j'ai doublé mon stock de parfums. J'avais anticipé la cire avant les pénuries parce qu'en fait, quand on le fait régulièrement, c'est déjà notre deuxième année parce que la première année, même si on le faisait un peu en dilettante, on avait quand même déjà vu qu'il y avait une saisonnalité qui était un peu compliquée. C'est souvent que l'été, il y a des ruptures de cire. Le colza, par exemple... Et souvent en rupture juillet-août, il y a des ruptures. D'accord. Des ruptures. Donc juste avant l'été, on avait rentré presque 300 kilos de cire. Et du coup, ce qui nous a permis de tenir jusqu'à la fin des fêtes, il n'est pas resté grand-chose. Je crois qu'il est resté 25 kilos, quelque chose comme ça, un peu plus ou 50. Donc c'était un pari. En fait, c'était un pari parce que on a fait le marché de Noël de Bergerac, on a un client qui a fait le marché de Noël de Sarlat, et puis on avait plusieurs boutiques qui distribuaient nos bougies sur Cahors. On a un concept store dans le Gers, on a des bougies qui sont parties sur Senlis, un peu partout. On en a qui sont parties aux États-Unis. Et en fait, ce qui a été serré, c'est que quand on fait les dossiers de... Enfin, nous ou les gens qui revendent nos bougies font leur dossier de candidature pour les marchés de Noël, ça se passe entre septembre et octobre.
Oui.
Et c'est là où c'est tendu, parce qu'en fait, septembre ou octobre, c'est déjà trop tard pour commander.
Oui, donc tu dois anticiper.
Donc en fait, on est obligé de commander sans savoir réellement si on va faire ou pas.
Et c'est... Souvent, voilà, on part du principe que les artisans d'art qui font des jolies choses, surtout quand les choses sont voilà, belles, mais c'est aussi une entreprise. Mine de rien, il faut anticiper, il faut calculer, il faut organiser.
Ouais. Et puis il faut éviter de... Enfin, tout à nous, tout ici, tout est calculé. En fait, ce que j'expliquais même ce matin, c'est que ne serait-ce que dans l'organisation de mon travail... elle est calée de façon à consommer le moins d'électricité possible.
Oui, et oui, faut être pragmatique. Hein. C'est sûr que sans ça, ça tient pas.
On Donc c'est vrai que finalement, la première tâche de fabrication d'une bougie, c'est finalement celle que je fais en dernier le soir.
Voilà. Donc, vas-y, raconte un petit peu cette articulation de ta journée. Bah,
c'est-à-dire qu'en fait, le soir, je prépare actuellement. Le soir, je prépare mes pots. Et je fabrique mes mèches de façon je remplis le bassin de fonte de cire, et j'ai un minuteur qui c'est stupide, mais j'ai un minuteur qui s'enclenche le matin de façon à ce que quand j'arrive le matin, j'ai plus qu'à finir de couler, d'assembler mon parfum et ma cire et de couler. Et cette opération-là, en fait, tout est timé. En fait, dans ce bassin de cire, j'ai un poids de cire qui me permet, avec les bougies actuelles, de fabriquer 50 bougies. Donc, si j'attaque à la bonne heure, à 12h30, j'ai fini mes 50 bougies. Mon bassin est vide. Je remplis à nouveau mon bassin. Je vais manger. Je mets en chauffe le deuxième. Je mets en chauffe le bain-marie. Comme quand je reviens de déjeuner, ma cire n'a pas fini de fondre, je commence à préparer, à remettre des pots. C'est-à-dire, je redispose des pots et en fait, c'est un cycle. Et
là, c'est un roulement.
Je refais une deuxième coulée et après, je refabrique de la mèche. Et là, je nettoie mon atelier. Parce que l'avantage, quand même, c'est que même si l'atelier est sale, ça sent toujours bon.
C'est ça. Et puis tu nous disais tout à l'heure que tu as des meubles en bois, ils sont toujours cirés aussi.
Voilà, les meubles, oui, parce que je renverse des fois, donc les meubles sont toujours cirés.
Oui, en tout cas, cette espèce de pragmatisme qui vient appuyer ta créativité, en fait, parce que c'est le pragmatisme qui consiste à se dire comment je découpe mes tâches, comment je peux être efficace dans ce que je fais pour mieux porter mon projet et pour qu'il soit viable, en fait. C'est vrai que c'est le travail de beaucoup d'artisans d'art que de se dire ok, j'ai une créativité, j'ai un savoir-faire, mais il faut quand même que les choses se passent et que je puisse vendre et que ça me coûte le moins possible et que en temps et en argent et donc une vraie organisation.
C'est ça, c'est-à-dire que si on n'avait pas cette organisation là, ça me permettrait pas de sortir un volume suffisant pour vivre de mon activité.
Voilà. Oui. Tu ferais ça en dilettante, quoi, en couleuse du dimanche.
C'est ça. Après, ouais. C'est vrai que c'est tout un travail. Enfin, ça va vite en production. Ça peut paraître beaucoup qu'on arrive à sortir entre 50 et 100 bougies par jour. Mais en fait, pour en arriver là, il y a tout un travail en amont de réflexion.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, tout est calé. C'est le toute la formulation, tout le parfum, c'est OK. La formule de la cire est OK. Le dosage dans la formule. Enfin, après, j'ai un pense-bête. Je ne sais pas si tu as vu le tableau.
Oui, j'ai vu. Ouais, mais ouais. Je ne l'ai pas compris. Mais...
mais moi, je le comprends.
J'imagine que toi, oui.
Mais en fait, ça me donne les proportions de cire, la quantité de bougies par couler, quoi. Et puis en plus, je dois aussi prendre en compte l'ergonomie, parce que plus j'ai de poids au bout de la main, moins je suis habile.
Ouais.
Donc en fait, c'est toute une réflexion en amont qui fait que derrière, ça s'enchaîne, quoi.
Mmh.
Bon, donc... Après, je viens de la logistique aussi. Je viens d'un monde.
C'est ce que j'allais dire. Tu viens du monde de l'entreprise, puisque pour toi, c'est une, j'allais dire une reconversion. Enfin bon, la vie n'est pas si facile manichéenne que ça. On va dire les choses sont une évolution plutôt qu'une révolution. En tout cas, c'est voilà, tu viens du monde de l'entreprise. Tu avais une société du transport. Mmh. Ouais.
Transport et de la logistique. Ouais.
Voilà, donc la logistique, ça te connaît. Quoi.
Voilà, l'organisation, c'est ça.
D'accord.
Et la production.
Ok. Est-ce que tu as une autre gamme ? Tu as une gamme saisonnière aussi ?
Oui, alors ça, c'est celle qu'on a faite en premier, puisqu'on a fait un petit peu au pied levé quand on nous a demandé de faire le premier marché de Montpazier et qu'on n'avait pas spécialement anticipé. Donc, on a sorti cette collection de saison. Et qu'on a réadapté finalement au printemps-été l'année suivante parce qu'on avait de la demande finalement. Et que, en fait, on a été retardé par la guerre en Ukraine sur le lancement de notre collection Les Saisons. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on était quasiment prêt au mois de mars l'année dernière. Et puis a éclaté la guerre en Ukraine et sont arrivées les variations de prix des matières premières.
D'accord.
Ce qui fait qu'en fait, on avait dans nos formules, on avait des parfums qui étaient hors de prix, quoi.
Mmh.
On avait une absinthe. D'ailleurs, on est obligé de l'arrêter parce que ça n'a pas évolué dans le bon sens. Mais l'absinthe, on est rendu maintenant à plus de 300 euros hors taxe du kilo.
D'accord,
le parfum. Donc, sur tout ce qui était rhum, on a dû remplacer des molécules et principalement tout ce qui était vanille, parce que ça a explosé.
D'accord.
On a dû également s'adapter aussi parce que le prix de la cire a grimpé. Et donc, on a perdu du temps à reformuler nos parfums sur la collection Les Saisons. Mais comme on avait quand même des demandes de bougies, on a maintenu cette collection ici en local qui a été vue donc sur le festival du jazz, qui a passé tout l'été à Bergerac, qui est à Sarlat, qui est un peu partout en Dordogne maintenant, mmh. Et voire même un petit peu plus, hein, puisqu'elle commence à être diffusée partout ailleurs. Et on a fini par valider nos formules, après avoir repris nos formules suite à la conjoncture économique et l'inflation. On a eu terminé ça, c'était à peu près juillet, sauf que août, les parfumeurs sont en congé. Donc c'était un peu la faute à pas de chance.
Nouvel obstacle.
Voilà, nouvel obstacle, mais bon, c'est pas grave, on continue. Et on a été retenu pour faire le salon de Saint-Émilion fin septembre l'année dernière. Et puis, même si Saint-Émilion, c'est une ville qui symbolise le vin,
mmh.
On s'est dit, pourquoi pas lancer notre collection spiritueuse sur le salon de Saint-Émilion. Donc, même si elle était prête, je crois qu'elle était prête début septembre, première ou deuxième semaine de septembre, on a affiné et on a attendu d'être à Saint-Émilion pour la lancer.
Bel accueil à Saint-Émilion ?
Bel accueil, parce qu'en fait, on a installé. Et 10 minutes avant le lancement du salon, est arrivé un couple d'Américains qui a craqué, qui voulait partir avec. Donc on leur a dit que ce n'était pas possible, que le salon ouvrait dans 10 minutes, qu'on avait l'intention de lancer notre collection et que du coup, ce n'était pas possible qu'on leur vende à ce moment-là.
Mm-hmm.
Donc on a expédié aux États-Unis dès leur retour. On a expédié en octobre, je crois que c'était aux États-Unis.
Ouais.
Donc on a fini par l'expédier là-bas. Donc on a démarré par une commande sur l'Amérique. Ouais.
Donc Elixir, quand même une société qui fait rayonner le Périgord jusque
jusqu'à Portland, c'est ça, Portland.
Ok. Donc tu as là, il y a une collection qui va sortir pour cette année aussi, ou tu continues à décliner un petit peu
Alors sur pour cet été, enfin, printemps-été, on va affiner notre collection les saisons. Tout n'est pas encore. J'ai encore des choix à faire. Là, par exemple, pendant qu'on parle, on est en train de tester au brûlage une bougie au parfum de fougère.
Qui est vraiment très intéressante.
Très intéressante. À mon sens. Là, on est sur la version 3.
D'accord, donc version 3.
Voilà, que j'ai voulu brûler 3.0. je t'ai fait sentir dans l'atelier la version 2 ce matin.
Oui, oui.
Donc, en fait, voilà, parce qu'on décline, on décline plusieurs versions. J'ai pas encore arrêté tous mes choix. Je vais reconduire l'aromatique frais qui a eu un énorme succès l'année dernière. On en a fait 35 kilos.
Oui.
Qui est à base de verveine, citrus, basilic, menthe.
Oui, je me souviens de celle-là.
Voilà, j'hésitais avec un sauge basilic pour la partie aromatique. Mmh. On va maintenir, on maintient notre patchouli épicé parce que, bon, parce que déjà on est en rupture. Parce que celui-ci part énormément. On maintient...
Patchouli, c'est très floral, hein, c'est ça ?
Non, enfin là, il est, plus, il est plus épicé.
C'est épicé, d'accord.
Ouais, okay. Il est plus épicé parce qu'en fait, il y a de la cannelle, du cumin, du patchouli et du poivre.
D'accord.
Le patchouli servant à donner la, la structure du parfum. Mm-hmm. Mais on sent quand même pas mal les épices. Je voulais faire une, un fleuri. Donc j'hésite entre la rose que j'ai créée, là, la rose,
rose un peu poivrée, c'est ça ?
La rose poivrée que tu as sentie ce matin. Mmh. Reste à vérifier le coût des matières premières, encore une fois, c'est toujours pareil.
Eh oui, c'est ça. Parce le pragmatisme n'est jamais bien loin.
Oui, parce qu'en fait, entre ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut vendre derrière, c'est le problème. C'est qu'il faut, il faut qu'on ait un parfum qui reste quand même compétitif. Mm-hmm. La rose poivrée, ben, il me reste à vérifier le prix des baies de rose aussi. Voilà, pour cette rose poivrée. Et puis après, après ben, j'avais d'autres idées, d'autres idées. Là, on est en train de tester du coquelicot.
Du coquelicot.
Ouais, du coquelicot dans le... dans le pot rouge pour le mettre. Parce qu'en plus, c'est toujours pareil. C'est, pour moi, c'est compliqué. Enfin, quand je crée une collection, il faut que le parfum que je mets dans ma bougie corresponde à la couleur de mon pot.
D'accord.
Donc, en fait, c'est un peu comme si j'avais la fonction concaténée dans ma tête et que je mette égal coquelicot, pot rouge, blabla. Enfin, ouais. Voilà. Donc, il faut que ça chemine. Il faut que ça... Enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin, pour moi, ça a un sens.
Oui, il faut, voilà, c'est un tout.
Voilà, c'est un tout.
C'est un système, quoi.
Voilà, c'est un parfum, c'est une couleur de peau, de peau POT.
Oui, soyons précis.
Voilà. Et en plus de ça, il faut que ça me permette de couvrir les familles olfactives aussi. Mmh. Puisque j'ai vraiment envie de garder un gourmand, un fleuri, un épicé, un boisé.
Oui, c'est ça.
Alors, le fruité, je suis un peu moins sur le côté fruité, parce que c'est vrai que le fruité, c'est très synthétique.
Oui, c'est ça. Et c'est ce que tu nous expliquais un peu plus tôt, hors antenne. Voilà. C'est qu'en fait, les parfums fruités n'existent pas. Et c'est des parfums de synthèse.
Enfin, je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas de l'extraction, le fruité.
Ce n'est pas de l'extraction, c'est ça.
Voilà, c'est beaucoup plus...
c'est des mélanges de choses qui nous amènent... Oui. Qui amène le cerveau à sentir quelque chose et à se dire, ah tiens, ça c'est de la poire, ça c'est de la pomme.
C'est ça. Après, voilà, c'est vrai que je dirais que c'est la famille sur laquelle je suis le moins à l'aise, si ce n'est celui qu'on a fait cet hiver qui s'appelle âme de soie, qui est de la mandarine bois. Mais la mandarine, c'est pas un fruité. En parfumerie, c'est classé dans les hespéridés.
D'accord.
Voilà.
Donc
on n'est pas vraiment pas tout fruité, à fait on n'est pas super fruité.
Okay.
Voilà.
Où est-ce que je peux trouver des bougies élixir ? Alors, dans le Périgord, mais est-ce que je peux en trouver ailleurs ? Est-ce que tu as un site ? Comment je peux acheter tout ça ?
Alors, dans le Périgord, on a plusieurs boutiques. Je crois qu'elles sont à peu près toutes en ligne sur notre site internet. Mais sinon, on a un site internet, lx-cire.fr.
Ok, tout simplement. Voilà. On peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine.
Oui, on est sur Instagram, sur LinkedIn et Facebook.
C'est ça.
Même si je n'ai pas une grande dextérité.
Oui, alors après, tu y es. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Voilà. Hein, donc, on ne peut pas produire et être toujours pendu aux réseaux sociaux. Bah, merci beaucoup, Raquel.
Merci, Frédéric.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Merci pour votre attention et rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de l'édition Périgord, le podcast économique.